Vous êtes sur Médien, sur Médien.com ou notre application Médien Radio. Merci à vous de votre fidélité. Matin Famille se poursuit avec vous. Et je le disais en tout début d'émission, donc, on parle également d'hypochondrie ou quand la peur d'être malade devient obsessionnelle. Alors, comprendre ce trouble de santé mentale qui peut réellement nous gâcher la vie de celui ou celle qui en souffre. Et pour en parler avec nous cette semaine également, Docteur Othman Lorabi, bonjour.
Bonjour et merci pour l'invitation et ravi, comme toujours, d'être avec vous sur les antennes de Médias.
Merci à vous. Je rappelle que vous êtes spécialiste en psychiatrie. Alors d'abord, être hypochondriaque, c'est quoi, Docteur Lorabi?
C'est le malade imaginaire. C'est pour résumer d'une manière un peu caricaturale la situation. Mais alors, l'hypochondrie est un trouble anxieux qui fait partie de la grande famille des troubles anxieux et qui va se manifester par une peur exagérée et infondée. Avec la peur d'une maladie grave par quel mécanisme? Par une interprétation erronée des symptômes physiques qui peuvent être somatiques, c'est-à-dire des symptômes physiques qui accompagnent l'angoisse, ou alors des symptômes physiques fonctionnels, de fonctionnement du corps humain. Cette idée-là va à une dimension un peu de chronicité, parce qu'on ne peut parler d'hypochondrie que quand c'est quelque chose qui est installé depuis au moins 6 mois. Et pour être dans la pureté diagnostique, entre guillemets, on va parler d'hypochondrie quand il n'y a pas d'autres troubles anxieux ou troubles dépressifs associés. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, nous pouvons avoir le même genre d'idée, le même type de conviction d'être gravement malade, mais au décours d'une dépression, au décours d'un trouble panique, au décours aussi d'un trouble anxieux généralisé. À ce moment-là, on ne va pas parler d'hypochondrie pure, sachant que la dernière classification américaine des maladies mentales ne reprend plus le terme d'hypochondrie. Elle reprend un concept beaucoup plus vague d'anxiété centrée sur la santé, hein, plutôt comme ça, qui diffère foncièrement de l'hypochondrie. Parce que l'hypochondrie, classiquement, la personne qui en souffre est concentrée sur un organe. C'est-à-dire que c'est la peur d'une maladie, mais concernant un organe, ce n'est pas toutes les maladies. Donc c'est quelqu'un qui, par exemple, va toujours être préoccupé par son état de santé cardiologique. Ou alors quelqu'un qui va toujours être préoccupé par le fait d'avoir une tumeur cérébrale. Mmh. Voilà, ça c'est pour vous donner quelques images cliniques de ce que c'est. Et la réelle problématique, vous le disiez, vous parliez de souffrance autant de la personne que de la famille, c'est d'abord... Il y a une incompréhension et les gens ne sont pas forcément au courant qu'il existe ce type de pathologie. Et deuxièmement, c'est aussi dans le comportement vis-à-vis du système de soins qui peut donner des complications. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ces personnes-là vont le plus souvent se retrouver dans une situation de surconsommation d'actes médicaux, de surconsommation de gestes diagnostiques. Ça peut être de la radiologie, etc. Or, on sait que, par exemple, la radiologie, il y a un certain nombre d'examens par an qu'on ne peut pas dépasser parce que ce sont des rayons ionisants, enfin, des rayons X. Ça peut être la prise de médicaments n'importe comment, surtout quand on va voir 3, 4, 5 médecins différents et chacun nous donne une prescription. Quelquefois, il y a des phénomènes qui sont en lien avec cette surprescription médicamenteuse. Et surtout, au final, l'entourage de la personne concernée commence à être dans une attitude de rejet et d'intolérance à la personne qui souffre de ça. Et la personne, bien sûr, va se sentir encore plus en souffrance parce que non seulement elle se dit être malade, mais en plus, personne ne la croit. Et peut-être très souvent, l'entourage dénigre, par exemple, les sensations physiques dont peut souffrir la personne. Donc, c'est vraiment une image extrêmement compliquée qui est loin de la caricature du malade imaginaire, qui donne une vraie souffrance, et ce d'autant plus que Très probablement, avec cette période Covid qu'on a vécue, enfin moi je l'ai constaté dans ma pratique médicale, mais aussi il y a des pays qui ont publié des chiffres en rapport avec les troubles anxieux dont fait partie l'hypocondrie ou l'anxiété excessive sur la santé, et qui ont montré qu'il y a eu une croissance très très importante en termes d'épidémiologie de ces troubles-là. Hein, donc c'est quelque chose qui est aussi lié au contexte, ce contexte de maladie pulmonaire, la pneumonie à Covid, enfin à SARS-CoV-2, donc la Covid-19, et où il y a forcément des gens qui vont être plus en situation de vulnérabilité pour développer ce genre de troubles liés à ce type de contexte.
Effectivement, j'allais y revenir. Vous faites bien d'en parler. Docteur Lorabi, je rappelle que vous êtes psychiatre. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de ces personnes qui imaginent peut-être certaines maladies, et vous avez dit que ça pouvait être infondé, c'est cela ?
Absolument, non fondé, oui.
Non fondé. Je pense notamment à ces personnes qui ont vu des parents mourir Absolument. D'un cancer. Elles ne vont penser par la suite qu'au cancer.
Absolument. Alors, il y a bien sûr des facteurs de vulnérabilité individuelle. Ça dépend, je dirais déjà, de l'état anxieux de la personne à l'origine. On sait que l'anxiété, c'est quelque chose voilà, où il y a des facteurs biologiques et génétiques, mais aussi notre éducation et notre parcours de vie influencent grandement oui. cet aspect anxieux. Donc, de la même sorte que quand on vit des traumatismes qui sont principalement liés au décès d'un proche, voilà. d'une maladie, alors le plus souvent, on est en train de parler de maladies péjoratives, vous avez parlé de cancer, mais on va aussi parler d'incidents cardiaques brutaux qui donnent la mort. On va parler aussi de la Covid, hein, oui. forcément. En tout cas, c'est toujours des maladies graves. Hein. Et quand je dis la peur est non fondée, c'est pas que la personne s'imagine être malade, mais que, en fait, la personne ressent des symptômes physiques. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Elle ressent des symptômes physiques qui sont moult et variés. Ça peut aller des palpitations, des crises de sueur, des sensations d'étouffement, des sensations d'étourdissement, des vertiges, des maux de tête, des bouffées de chaleur. Il y a beaucoup de symptômes physiques qui sont... Là, les symptômes que j'ai cités sont en lien avec ce qu'on appelle les manifestations somatiques de l'angoisse. C'est-à-dire quand on est dans un état anxieux sévère, nous ressentons tous, nous pouvons ressentir ce genre de symptômes. Et c'est l'interprétation de ces symptômes-là qui donne finalement l'idée hein, ou la crainte d'être très sévèrement malade. Parce qu'on ressent... Un symptôme, on le ressent, il est là. On va voir le premier médecin, le deuxième, le troisième. Tous me disent « je n'ai rien ». Donc forcément, moi, je vais me dire « ah mince, alors ils sont passés à côté d'un truc, ça doit être un truc inconnu, ça doit être un truc grave, parce qu'ils n'ont pas trouvé ce dont je souffrais ». Et ce message-là, quand on est avec une personne à tendance hypochondriaque qui va consulter un médecin avec une vraie plainte physique, qui va, comme en conclusion, on va lui dire « tu n'as rien », c'est un message qui est paradoxalement, très anxiogène, hein, que pour les raisons que je viens d'expliquer. Alors que le plus souvent, quand on arrive à repérer ça donc en consultation autre que psychiatrique, et si on dit que oui, ces symptômes physiques ne sont pas en lien avec la perturbation de l'organe, mais c'est très probablement des choses qui sont psychosomatiques et qui relèvent de l'anxiété, et ben assez paradoxalement, on arrive à désamorcer cette situation, et puis il y a une vraie prise en charge, et donc la souffrance à ce moment-là s'arrête. Hein, voilà, donc c'est un petit peu aggravé par ce discours quand on dit à personne que tu n'as rien, et c'est un petit peu aggravé aussi par, entre guillemets, le niveau de confiance que peut avoir le patient vis-à-vis des médecins qu'il consulte.
Alors avant de parler de prise en charge, docteur Lorabi, quelles pourraient être les répercussions les plus sévères, j'allais dire ?
Alors, les répercussions, comme tout trouble anxieux, il peut y avoir l'apparition de comorbidités, c'est-à-dire d'autres maladies qui vont se surajouter à l'hypochondrie. Je pense notamment à d'autres troubles anxieux. On peut avoir un trouble panique qui va commencer à s'installer. On peut avoir une comorbidité dépressive, c'est-à-dire que à la longue, ce trouble hypochondriaque va grandement favoriser la survenue d'une dépression qui peut aller jusqu'à la dépression infections extrêmement sévères. Ça peut aussi donner lieu quelquefois à des conduites addictives, parce que tous les troubles anxieux et surtout les symptômes physiques sont assez souvent soulagés, entre guillemets, par des substances addictives. Mmh. Donc déjà, en termes de comorbidité, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Et puis, j'en parlais tout à l'heure, il y a les complications qui sont liées au comportement. Donc, on va parler d'un retentissement économique, parce que quand on parle de ces différentes consultations, ces différentes investigations,
ça a un coût,
autant pour le patient que pour l'organisme de remboursement, par exemple. On va parler aussi des conséquences potentiellement négatives sur la santé physique de ces différentes investigations, de ces différents traitements, que ce soit en termes d'effets indésirables ou d'interaction. Et enfin, on va trouver une souffrance sur le plan social, parce que à la longue, ces personnes vont finir par être rejetées, par être exclues, même de leur propre entourage, parce que les gens considèrent qu'ils sont toujours dans la plainte, qu'ils leur pourrissent la vie, qu'ils ne veulent rien comprendre, alors qu'ils ont vu 3 toubibs différents qui leur ont dit qu'ils n'ont rien. Et donc, il y a vraiment une réaction assez violente de la part de l'entourage en général, parce qu'il y a de l'incompréhension. Il y a de l'incompréhension parce qu'il n'y a pas ce type d'information justement comme quoi ce genre de trouble existe et qu'une prise en charge est possible.
Est-ce que ça se soigne justement, docteur Loravi?
Alors oui, ça se soigne même très bien, parce que si on parle d'hypochondrie pure et dure, c'est quelque chose qui est apparenté à une sorte de trouble obsessionnel compulsif. Donc là, à ce moment-là, le plus souvent, quand on traite en associant la psychothérapie, essentiellement des thérapies cognitives ou comportementales, ou quelquefois des thérapies d'inspiration analytique, plus des médicaments, le plus souvent des médicaments antidépresseurs, parce que ce sont les médicaments antidépresseurs qui sont le traitement de référence des troubles anxieux, et bien à ce moment-là, on arrive à avoir de bons résultats et une bonne rémission. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ces troubles-là ont une tendance à la récurrence, à la rechute, et que malgré un traitement bien mené, par exemple, si on traverse une longue période de stress avec des circonstances très adverses, hein, on va dire ça comme ça, et ben ça peut réapparaître de manière momentanée ou un peu plus longue, et ça pourrait renécessiter une prise en charge. Mais en tout cas, ça se traite, et le traitement n'est pas de consulter 10 cardiologues, par exemple, quand on a mal à la poitrine et qu'on se dit qu'on est malade du cœur, mais c'est vraiment en passant par le spécialiste en santé mentale.
Parfait. Docteur Athmane Loravi, je rappelle que vous êtes psychiatre à Casablanca. Merci beaucoup
une nouvelle
fois
vous.
D'avoir répondu à nos questions sur Médien. Je vous dis à la semaine prochaine.
Avec plaisir.